À l'écoute des RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
C'est l'heure de votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir le bras de fer qui n'en finit pas entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran annonce vouloir se retirer partiellement des accords de Vienne sur le nucléaire. Quant à Donald Trump, il menace de répondre par la force.
Les États-Unis qui n'ont pas abandonné les Palestiniens. Déclaration ce soir de Jared Kushner, conseiller et gendre du président américain. Il s'exprimait à Bahreïn, où Washington présente le volet économique de son plan de paix pour le Proche-Orient.
Et puis nous irons à Kinshasa dans ce journal. Kinshasa, où un document alimente la polémique autour de la construction du palais présidentiel. Les explications dans un instant.
Le journal en français facile.
La conférence économique sur le conflit israélo-palestinien, elle s'est ouverte ce soir au Bahreïn, en l'absence des principaux intéressés.
Oui, puisque les responsables palestiniens ont rompu tout contact avec l'administration américaine, et ce depuis la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ils estiment que le plan économique proposé aujourd'hui est un moyen de les acheter pour qu'ils renoncent à la création d'un État indépendant. À Manama, Jared Kushner, le conseiller et gendre de Donald Trump, a de son côté tenté de défendre le plan qu'il propose. Écoutez.
La croissance économique et la prospérité ne sont pas possibles sans une solution politique durable et juste du conflit qui garantisse la sécurité d'Israël et respecte la dignité des Palestiniens. Mais aujourd'hui, la question n'est pas politique, non. Nous nous en occuperons en temps voulu. Le but de cette conférence aujourd'hui est de commencer à penser à ces défis d'une manière nouvelle. Le président Trump a créé la meilleure économie que les États-Unis aient vue depuis très longtemps. La prospérité est quelque chose qui se mérite grâce à une planification intelligente, à de la détermination et de la force morale. Les Palestiniens ont ces qualités. Mon message direct aux Palestiniens est le suivant. Contrairement à ce que vous disent ceux qui vous ont déçus par le passé, Donald Trump et les États-Unis ne vous ont pas abandonné. Certaines personnes se sont moquées de cet effort en l'appelant le deal du siècle. Mais le but n'est pas uniquement de passer un accord. En réalité, cet effort serait mieux nommé l'occasion du siècle.
Les propos du conseiller au président américain Jared Kushner.
L'actualité de ce mardi, c'est aussi la guerre des nerfs et des déclarations qui continuent entre Washington et Téhéran.
Oui, dernière en date, celle de Donald Trump, qui prévient que les États-Unis riposteront, je cite, avec une force considérable et destructrice à toute attaque iranienne. Des Iraniens qui annonçaient plutôt leur intention de renoncer à certains de leurs engagements prévus par l'accord nucléaire de 2015. La diplomatie française, allemande et britannique sont entièrement mobilisées pour faire comprendre à l'Iran que ce ne serait pas son intérêt, juge aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Ce soir, l'Élysée fait savoir de son côté qu'Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec son homologue Hassan Rohani Zéphirin.
Au Royaume-Uni, on saura le 23 juillet le nom du prochain Premier ministre. C'est ce que fait savoir le Parti conservateur aujourd'hui. D'ici là, aura lieu un vote par correspondance, auxquels sont invités à participer ces 160 000 adhérents. Deux candidats se disputent le poste, Boris Johnson et Jeremy Hunt.
En Turquie, Recep Tayyip Erdogan est lui sorti de son silence deux jours après la défaite de son parti à l'élection municipale d'Istanbul. Le président turc a pris la parole devant les députés de son parti, l'AKP. Un discours pour reconnaître son échec et conserver la mairie de la plus grande ville du pays dans le giron de la majorité. Mais Recep Tayyip Erdogan a surtout tenu à rappeler que sa formation continuerait de dominer les instances municipales. À Istanbul, les précisions d'Anand Lauer.
À l'exception d'un laconique message de félicitations au nouveau maire d'Istanbul sur son compte Twitter, c'était la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'exprimait depuis la défaite de son parti à l'élection municipale de dimanche. Le chef de l'État turc est entré tout de suite dans le vif du sujet, félicitant une nouvelle fois Ekrem İmamoğlu et disant s'incliner devant la décision du peuple d'Istanbul.
Dans notre conception de la politique, il est hors de question d'en vouloir à la nation ou de rejeter la faute sur elle. Nous allons examiner les raisons pour lesquelles le 31 mars et le 23 juin, nous n'avons pas réussi à convaincre notre nation. Nous ne pouvons nous offrir le luxe de faire comme si de rien n'était et de ne pas voir le message qu'a envoyé notre nation.
Sur ce message des électeurs, le président n'en a pas dit plus. Car Recep Tayyip Erdogan s'est surtout évertué à démontrer que son parti, l'AKP, et son allié ultranationaliste, le MHP, étaient en fait les vainqueurs des municipales du 31 mars, fort de leur large avance au niveau national. Il a aussi rappelé que sa formation détenait la majorité au conseil municipal d'Istanbul et contrôlait la présidence de toutes les commissions. Façon de dire au nouveau maire qu'il n'aura pas les coudées franches pour gérer sa ville. Pendant la campagne, Recep Tayyip Erdogan avait été plus explicite. Il avait prévenu Ekrem İmamoğlu qu'il ne serait qu'un canard boiteux et une décoration de vitrine s'il gagnait l'élection. Alain Dloir, Istanbul, RFI.
Il est 21h06 à Kinshasa. Venons-en, Loïc, maintenant à cette affaire qui fait grand bruit en République démocratique du Congo.
Il s'agit d'un document attribué à la présidence qui circule sur les réseaux sociaux. Document qui concernerait le processus de passation de marché et le montant de la construction du palais présidentiel. 6 mois environ après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Les précisions à Kinshasa de Patient Nigodi.
Cette supposée correspondance aurait été signée le 13 juin par Désiré Cachemire Kolongeli Eberande, directeur adjoint du cabinet de Félix Tshisekedi. D'après le document, il aurait sollicité auprès de la Direction générale du contrôle de marché public l'autorisation spéciale de recourir à la procédure d'entente directe en vue de la construction et la réhabilitation des bâtiments abritant la résidence et les bureaux du président de la République à la Cité de l'Union africaine et au Palais de la Nation. Toujours selon le document, le marché devrait être accordé à la société Democratic Congo High Tech Construction Company, une entreprise qui n'a qu'environ un mois d'existence selon le site du guichet unique de création d'entreprise. Et les travaux coûteraient 180 millions d'euros. Ce document est un faux, rétorque le directeur adjoint de cabinet de Félix Tshisekedi. C'est un torchon, c'est fait par des gens qui souhaitent nous salir. Fin de citation. Au niveau de la présidence de la République, on confirme cependant l'existence du projet de construction d'un palais présidentiel. Depuis 2013, cette ligne apparaît dans le budget de l'État sans jamais être décaissée. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
La canicule en France avec de nouvelles mesures annoncées demain, de mesures limitant la circulation, notamment en région Île-de-France.
Oui, la circulation différenciée va être mise en place en région parisienne. Concrètement, cela signifie que seuls les véhicules les moins polluants auront le droit de rouler sur les routes de Paris et de la Petite Couronne. 65 départements sont placés en vigilance orange. Les températures devraient atteindre les 39 degrés demain dans certaines régions.
Et puis, le football avec la suite de la CAN et deux rencontres à l'affiche ce soir.
Ghana-Bénin à Ismaïlia, la rencontre vient de commencer. Le Bénin a déjà marqué un but et mène donc 1-0. Et puis tout à l'heure, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau 2-0, Zéphirin.
Et on part aux États-Unis pour refermer ce journal. Les États-Unis où l'on pourra bien porter des t-shirts de la marque FUCT.
Oui, fucked, c'est en tout cas ce qu'a décidé la Cour suprême. Fucked, c'était trop proche de fuck pour les autorités qui refusaient d'inscrire au registre des marques ce qui ressemblait à un juron, donc à une insulte en anglais, à un gros mot.
Je confirme.
Un premier jugement leur avait donné tort. L'administration Trump avait fait appel. Elle vient d'échouer à faire interdire la marque. Correspondance à Washington, Dan Corpé.
À une époque où la liberté d'expression est attaquée, il est particulièrement important pour la Cour de rester ferme sur ses principes. Il y a beaucoup d'idées scandaleuses dans le monde. Le premier amendement les couvre toutes. La réponse de la Cour suprême à la demande de l'administration est sans équivoque. Quoi qu'on pense de son idée, le créateur de vêtements Fucked peut donc légalement déposer sa marque. Le mot fuck, écrit légèrement différemment, est un juron couramment employé par les Américains, mais toujours couvert d'un bip sonore lorsqu'il est par exemple prononcé à la télévision. En raison de la vulgarité de son homonyme, l'administration américaine avait dans un premier temps refusé d'enregistrer la marque sur ses registres. Le styliste avait porté plainte et gagné en première instance, mais le gouvernement avait fait appel et demandé à la plus haute instance judiciaire du pays de valider une loi qui permet de rejeter les demandes jugées scandaleuses. La Cour suprême a dit au gouvernement fédéral de rester en dehors des questions de moralité, a commenté l'avocat du créateur, qui pourra donc décliner à loisir le nom de sa marque Fucked, et qui, grâce à cette affaire, a bénéficié d'un beau coup publicitaire. Anne Corpé, Washington, RFI.
Voilà une correspondance d'Anne Corpé qui nous aura fait réviser notre anglais. RFI, il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci d'être fidèle à la Radio du Monde. La